Bonjour Monsieur le maire, du coup.
Bonjour.
Bienvenue donc dans cette édition spéciale de l'Anversaire en ondes. On va commencer du coup sans plus tarder avec une question très légère pour commencer avant de faire un peu le programme de cette interview. On entrera dans le vif du sujet plus tard. Ça fait 4 ans que vous êtes arrivé à la mairie. Quel bilan vous porteriez rapidement sur votre mandat pour l'instant ?
Alors ça fait 3 ans et demi, ça fait pas 4 ans. Et un bilan à la fois positif sur le plan des actions engagées, actions en faveur de la transition écologique, du lien social, de la démocratie participative, et un bilan mitigé sur la lenteur de la mise en œuvre de ces actions. Je n'imaginais pas que les délais administratifs, financiers, légaux allaient être aussi longs. Je pensais, quand j'ai été élu et que j'étais encore bien naïf, que dès qu'on avait une idée, on pouvait la concrétiser. Bon, dans les faits, entre l'idée et la concrétisation, il s'écoule du temps.
Vous pensez à quel sujet, rapidement, on va y revenir après, sur le bon vivre, sur les aménagements de la ville, mais là, par rapport à la lenteur, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit naturellement ?
Eh bien, par exemple, sur les aménagements du square de Bière-du-Buc, c'est un square qu'on a voulu rendre vivant, on a mis les habitants, les riverains dans le coup, mais les aménagements eux-mêmes, les aménagements paysagers, la remise en place de l'aire de jeu, tout cela prend du temps, le temps de passer des marchés, le temps de financer tout ça, et ça fait déjà 3 ans et demi. Et même si ce square, par exemple, vit, il est très loin d'être finalisé. Ce sont les panneaux photovoltaïques, c'est la salle de sport Georges Delphos, sur laquelle on a découvert des fissures, et depuis 1 an et demi, elle est fermée, et elle va, j'espère, rouvrir cet été. Enfin voilà, tous ces délais-là, sur lesquels on essaye d'agir, mais on a finalement assez peu de prise, tous ces délais-là m'ennuie.
C'est un peu la complexité de la paperasse administrative là, que vous pensez. On entend aussi beaucoup dans les médias.
Oui,
trop de normes en fait finalement.
Ah, trop de normes. Non, je pense qu'il faut des normes parce que sinon chacun fait n'importe quoi et on se retrouve comme dans certains pays avec des immeubles qui s'effondrent. Donc c'est bien qu'il y ait des normes. Mais entre le moment où on envoie un papier, le moment où on a le retour et il faut qu'on renvoie à nouveau quelque chose, tout ça prend beaucoup de temps. Donc comme d'ailleurs chez moi à titre particulier, hein, quand je dois faire des travaux, ça prend aussi du temps. Mais à la mairie, c'est encore un peu plus long.
Ça va.
Donc du coup, juste pour vous réexpliquer un peu l'interview, ce que je vous disais avant le début de l'émission, on va diviser le tout en 4 parties pour couvrir un peu tous les sujets qui nous sont le plus remontés quand on allait un peu dans les rues à la rencontre des Lambert-Sartois. On va parler du coup du bon vivre dans la ville de Lambert-Sartois, des aménagements et travaux donc, que vous évoquiez, justement, de l'écologie, et on terminera avec 2 sujets un peu plus légers, donc une boîte à questions et un des éléments phares de notre émission, la parole en Lambert-Sartois. On vous expliquera à ce moment-là.
Et donc récemment, on a vu les chiffres dans la Voix du Nord de l'INSEE qui expliquaient que Lambert-Sart avait perdu 1500 habitants en 10 ans. Article vraiment récent de la Voix du Nord, ce qui correspond donc à une baisse d'environ 5%, ce qui est le plus haut score derrière de la couronne nord-ouest derrière Lompré. Et c'est 6,6%. Comment vous l'expliquez, vous, cette baisse d'habitants ?
Eh bien, en fait, il faut comprendre que depuis 20 ans, 30 ans, le nombre d'habitants par logement diminue du fait des séparations, du fait du vieillissement de la population. Il y a 30 ans, c'était 3,3 habitants par logement. Et actuellement, c'est 2,2. Donc ça veut dire que pour maintenir une population au même niveau, là on a perdu un tiers, il eût fallu construire un tiers des logements existants en plus. Lambert-Sart est une ville petite en taille, hein, c'est 6 km², c'était 29 000 habitants. Et construire alors qu'on n'a pas de friche industrielle, il n'y avait pas d'entreprise sur Lambert-Sart, ça nécessite de construire sur des logements existants. Et ça, c'est pas simple. Aujourd'hui, construire, on a besoin de le faire. On a besoin de le faire parce qu'il faut que les jeunes qui veulent s'installer à Lambert-Sart puissent trouver chaussures à leurs pieds. Parce qu'il faut aussi que les personnes plus âgées qui vivent seuls ou à deux dans une grande maison qui était leur maison familiale, eh bien, puissent partir, si elles le souhaitent, vers quelque chose qui leur correspond mieux, donc par exemple un appartement. Et donc tout ce parcours résidentiel du jeune couple qui s'installe à la personne âgée qui va déménager pour vivre dans un logement plus petit et plus adapté, eh bien tout ça, il manque un peu de tout à Lambersart. Il n'y a pas eu assez de construction sur les 20 dernières années.
Et donc, vous avez payé donc cette amende SRU, que vous continuez de payer tous les ans. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir pour les auditeurs ce qu'est cette amende SRU le courrier que vous avez envoyé à Madame Borne, donc à l'époque Première ministre, parce qu'on a regardé le conseil municipal et vous n'aviez pas caché votre énervement par rapport au fait qu'il y a des projets qui sont lancés, mais il y a peut-être un manque de tolérance prise par les instances, par l'État.
Alors, je vous remercie d'aborder ce sujet qui est très complexe. Je ne sais pas si ça va intéresser vos auditeurs, parce que comme c'est un sujet complexe et qu'on ne peut pas le résumer en deux phrases, ça va être compliqué.
Mais dans les grandes lignes, finalement.
Les grandes lignes, c'est quoi? C'est que la loi impose aux villes d'avoir 25% de logements sociaux, qu'on appelle logements conventionnés. À Lambersart, on est en dessous de 18%. À partir du moment où une ville est en dessous de 25%, elle est soumise à une amende, ce qu'on appelle l'amende SRU, et cette amende peut être majoré en fonction des efforts que fournit la ville. Il s'avère que précédemment, hélas, je l'ai dit, il n'y a pas eu de logement construit. Depuis 3 ans et demi que nous sommes arrivés, que nous avons été élus, eh bien, on a lancé des tas de projets. En tout cas, on a accompagné plutôt que lancé des projets. Il y a des promoteurs immobiliers qui ont acquis des terrains, qui ont acquis des maisons pour y construire des logements. Et on a imposé à ces promoteurs immobiliers, dans leurs projets, de mettre en place 40% de logements sociaux pour essayer de rattraper notre retard. Là où je ne suis pas content, c'est que le préfet a constaté que en 3 ans, il n'y avait pas eu assez de logements sociaux construits sur Lambersart, et donc du coup, il a majoré l'amende. Et ce que j'ai écrit à Madame la Première ministre de l'époque, et j'ai renvoyé mon courrier au nouveau Premier ministre, c'est que je n'étais pas responsable de ça, parce que qui construit des logements, ce sont les bailleurs sociaux, ce sont les promoteurs immobiliers, et s'ils ne construisent pas, eh bien moi, je ne peux pas construire à leur place. Depuis 3 ans et demi, il y a plusieurs projets sur Lambersart. Quand j'ai été élu, il y avait un projet qui avait obtenu un permis de construire sur ce qu'on appelle l'ex-garage Gruson. Aujourd'hui, on est en février 2024. Les murs commencent à grimper. Peut-être que les premiers habitants y arriveront en septembre 2024, mais il se sera donc écoulé 4 ans, alors que le permis de construire était déjà signé. Et sur d'autres projets, les permis de construire sont signés et rien ne bouge. Et donc les bailleurs sociaux, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais en tout cas ne construisent pas. Donc il n'y a pas opposition de notre part, au contraire, on impose aux promoteurs immobiliers de construire 40% de logements sociaux, mais si eux ne construisent pas, moi j'en suis pas responsable. Et on me sanctionne parce qu'il n'y a pas assez de logements sociaux à Lambersart.
Donc qu'attendez-vous concrètement de Gabriel Attal, qu'il réduise peut-être l'amende ou...
Alors que Lambersart soit sanctionné parce que depuis toujours elle n'a pas construit, favorisé en tout cas les logements sociaux, ça c'est normal, mais que l'amende soit majorée, ça me paraît profondément injuste, surtout quand on voit l'énergie qu'on met pour tenter de rattraper ce retard.
Et à ce titre de la construction des logements sociaux, comment vous gérez-vous personnellement les critiques émises par l'opposition Préservons Lambersart? Parce qu'on a l'impression que dès qu'il y a un logement social qui peut être construit, les riverains sont vent debout. Je pense à l'avenue Lyautey. Je voyais aussi la ferme Machelin, où j'avais rencontré en septembre des gens qui étaient énervés de voir un nouveau bâtiment être construit, donc moins de places de stationnement, plus de monde, etc. Comment vous gérez cette opposition? Qu'est-ce que vous répondez par rapport aux fervents défenseurs de l'environnement qui ne veulent pas plus de logements sociaux dans la ville?
Alors, je ne sais pas si ce sont des fervents défenseurs de l'environnement. Nous sommes, nous, des fervents défenseurs de l'environnement. On pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais nous avons beaucoup d'actions qui sont en faveur de l'environnement.
Mais au nom de la préservation de l'environnement.
On utilise sans aucun doute cet argument-là pour expliquer qu'on ne veut pas d'un immeuble derrière chez soi. Ça, je le comprends. Il y aurait un immeuble qui se construirait derrière chez moi, ça ne me réjouirait pas. Mais donc, je comprends que les gens n'en soient pas satisfaits. Mais utiliser l'argument de la défense de l'environnement, peut-être pas toujours l'argument de fond. Et donc l'opposition, bah, l'opposition municipale n'est pas du tout opposée au fait qu'il y ait des constructions à Lambersart. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu en conseil municipal que les uns et les autres.
Chantiers systématiques. Ou...
Je n'entends pas en conseil municipal que l'opposition regrette ces chantiers. Elle serait d'ailleurs mal avisée de le faire puisque ces chantiers sont des chantiers privés. Donc, nous sommes en France. En France, il y a des lois, il y a la propriété privée, et le respect de la propriété privée est vraiment un des fondamentaux de la République française. Vous avez une maison, vous décidez de construire un abri de jardin. Eh bien, si vous respectez le plan local d'urbanisme, ce qu'on appelle le PLU, eh bien, vous avez le droit de construire votre abri de jardin, même si votre voisin trouve que votre abri de jardin, il n'est pas beau. Mais vous avez le droit, c'est chez vous. Là, on a des gens, des promoteurs qui ont acheté des terrains, et sur ces terrains, ils ont le droit de construire dès lors que ça respecte le PLU. Alors certains s'imaginent que le maire a tous les pouvoirs et peut dire non, non, moi je ne veux pas que tu construises ça sur cet endroit-là. Mais non, on est en France, on n'est pas dans des pays.
Vous n'avez pas finalement la possibilité d'agir.
Alors le promoteur, dès lors qu'il me présente un permis de construire qui est en règle avec le PLU, je ne peux pas m'y opposer. Si je m'y opposais, ça serait de l'abus de pouvoir. Et donc l'abus de pouvoir fait qu'on est sanctionné par les tribunaux administratifs. Les promoteurs vont au tribunal. Au bout de 2 ans, le juge dit bah, « Écoutez, le permis de construire, il est tout à fait dans les clous. Monsieur le maire, vous avez fait un abus de pouvoir et vous êtes condamné. Donc 1, l'immeuble se construit. 2, la ville doit payer. Donc c'est ça la réalité. D'autres peuvent faire croire que le maire peut s'opposer. C'est un mensonge. Je ne peux pas le dire autrement.
Donc c'est une équation extrêmement délicate entre les logements d'un côté et le fait de préserver certains espaces verts de la ville, finalement.
Oui, alors en fait, l'équation, elle est délicate et on la résout en discutant avec les promoteurs. C'est-à-dire que on impose aux promoteurs, le PLU aussi impose aux promoteurs, un certain pourcentage d'espaces verts. Prenons l'exemple de la briqueterie. Donc, qui est une entreprise qui faisait des briques, et tout le terrain n'est pas vert, c'est de la brique, c'est du bitume. Et là, dans le projet qui est présenté, il y a 50% de cet espace qui va être rendu à la nature, qui va être rendu à l'écologie. Donc, c'est plutôt un progrès. Sur d'autres lieux où effectivement c'était une maison avec 2000 m² de terrain, là oui, l'emprise au sol va être supérieure à ce qui était à l'emprise au sol de la maison. Ça c'est évident. Mais néanmoins, il restera des espaces verts, heureusement.
Donc c'était finalement une priorité de votre mandat, ces logements quand même, parce que Marc-Philippe Daubresse avait moins construit, c'est un peu le constat que vous avez fait en arrivant à la mairie, de logements sociaux sur ces mandats successifs.
Oui, en tout cas, on n'a pas assez de logements sociaux. Il y a certains projets immobiliers qui ont été menés lorsque je n'étais pas maire, qui recèlent 0% de logements sociaux. Donc en mettant 0% de logements sociaux, on a tendance plutôt à diminuer le pourcentage global des logements sociaux sur Lambersart. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on refuse de faire. Ce d'autant plus que quand on dit logement social, dans les faits, ce sont des logements qui peuvent accueillir 65% de la population française, c'est-à-dire des gens qui travaillent, des instituts, des professeurs des écoles, on dit aujourd'hui, des infirmiers sont éligibles au logement social. Tout le monde imagine que le logement social, c'est vraiment des gens très en difficulté financière, très en difficulté sociale. Oui, il y en a, et Dieu merci, en France, on évite que les gens soient à la rue, mais la plupart des personnes qui vont habiter dans ces logements sociaux sont des personnes qui travaillent. Hein.
Donc un peu de patience avant que tous ces projets voient le jour. On a une autre partie sur ce bon vivre à Lambersart, c'est la dotation de solidarité urbaine donc, qui a été perdue. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement hein, ce que c'est et quelles ont été les conséquences concrètes dans le budget pour 2024?
Alors, on ne sait pas si on va la perdre.
Parce qu'il y a une décision en avril.
C'est en avril qu'on le saura. On pense qu'on va la perdre. Pourquoi on pense qu'on va la perdre? Je vais vous l'expliquer dans deux minutes. Je vais repréciser ce qu'est la DSU, la dotation de solidarité urbaine. En fait, c'est un financement qui vient de l'État et qui est versé aux deux tiers des villes de plus de 10 000 habitants qui hébergent les personnes les moins riches. Donc ça veut dire qu'un tiers des villes de plus de 10 000 habitants qui hébergent une population qui est plus riche ne la touche pas. Donc en gros, il y a 1 000 villes qui la touchent, cette DSU, et il y en a 680... Pardon, non, il y a 1 000 villes de plus de 10 000 habitants en France, il y a 696 villes qui touchent la DSU. Quand nous sommes arrivés, Lambersart était 640e et l'année dernière, Lambersart était 685e. Et c'est le cut, là, il se fait à 696. Donc, la dynamique fait qu'on pense qu'on va la perdre. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que les habitants de Lambersart, en moyenne, sont plus aisés que les habitants des autres villes. Tant mieux pour eux, mais la ville, c'est-à-dire la mairie, du coup, va perdre sans doute cette dotation qui se monte à 1,4 million. Et notre budget annuel, c'est 33 millions. Donc, globalement, ça veut dire qu'on perd 5% de notre budget. Et ça ne va pas être simple à gérer.
Et donc, les conséquences, quels choix ont été faits par la mairie, justement, pour compenser les pertes? Est-ce que...
Eh bien, les conséquences, en fait, c'est que quand dans un ménage, eh ben, on gagne moins d'argent, il faut restreindre ses dépenses, ou alors il faut emprunter et puis rentrer dans une spirale absolument dramatique. Nous, depuis que nous sommes arrivés, nous faisons attention aux dépenses, puisque nous ne souhaitons pas emprunter, parce que emprunter, c'est se mettre en danger pour l'avenir, et nous ne vendons pas ce qu'on appelle les bijoux de famille. Hein. Quand on manque d'argent, on peut décider de vendre ce qui nous appartient, comme ça, ça rapporte de l'argent. Nous ne vendons pas de bijoux de famille, donc nous ne vendons pas de terrains municipaux à des promoteurs immobiliers. Donc, si on ne ramène pas d'argent en plus, parce qu'on n'emprunte pas et on ne vend pas, eh bien, il faut qu'on restreigne nos dépenses. Donc, on est très attentif à nos dépenses. Et on le sera d'autant plus si on perd la DSU.
Justement, par rapport au budget, est-ce que vous avez dû réduire la voile sur certaines...
Ah bah, surtout.
C'est global, attention. Finalement, il n'y a pas un secteur qui a été plus touché que d'autres?
Non, pour l'instant... Pour l'instant, on a pas pris la décision d'arrêter, par exemple, d'ouvrir la piscine. La piscine, ça nous coûte 400 000 euros par an, faut le savoir. On n'a pas décidé de ne plus faire de spectacles. On n'a pas décidé de ne plus aider les associations qui s'occupent de l'enfance. On n'a pas décidé de ne pas aider les associations sportives. Donc, on maintient tout ça, mais on réduit. On fait très, très attention à toutes nos dépenses.
D'accord, ok. Et on a une dernière question par rapport à Gabriel Attal qui a expliqué lors de sa politique générale qu'il souhaitait donner plus de pouvoir aux maires selon différents dispositifs. Comment ça se traduirait concrètement à Lambersart?
Déjà, il faut lui demander à lui, parce que bien malin qui peut comprendre ce qui a été dit. Vous savez, moi, j'ai été élu depuis 3 ans et demi. Hein. En 3 ans et demi, j'ai vu défiler... 4 gouvernements peut-être, j'ai vu passer 3 préfets, donc il y a des changements tous les 4 matins. Donc entre les déclarations et ce qui va se concrétiser réellement sur le terrain,
on reste méfiant.
J'attends de voir. Ça fait, depuis qu'on est élu, on nous dit que l'État va nous aider pour tout ce qui est transition écologique. Bon, pour l'instant, les subventions, elles sont quand même données avec beaucoup de parcimonie.
Mais ça serait une volonté ou pas forcément d'avoir plus de pouvoir? Est-ce que vous sentez restreint sur certaines prises de décision ou...
Alors, donc là, la question que vous posez, c'est est-ce que les maires devraient avoir plus de,
oui,
de poids lors de l'attribution des logements sociaux?
Ou plus généralement, hein, sortant de ce cadre-là?
Est-ce que les maires peuvent avoir plus de poids? Oui, mais alors ça, c'est pareil. On nous le dit depuis toujours et vous savez, on a de moins en moins de poids. Dans les faits, on doit gérer la vie de la collectivité, la vie de nos habitants et tous. Il y a beaucoup de décisions que nous sommes forcés de prendre parce que la loi, l'administration ou l'État nous y contraint.
D'accord, ok.
On va passer du coup maintenant à la deuxième thématique dont on voulait parler un peu plus en profondeur. Donc c'était sur les aménagements de la ville. Mmh. Et on avait surtout une question qui est pas mal remontée, ce qui concerne les travaux avenue Bécart, les problèmes de stationnement. Par rapport à ces deux problématiques-là, est-ce que vous avez prévu donc soit des solutions par rapport à ça, ou qu'est-ce que vous pensez du coup de cette problématique-là?
Oula, parce que là, vous me parlez d'un champ. Est-ce qu'on parle de l'avenue Bécart? Est-ce qu'on parle des commerces? Est-ce qu'on parle du stationnement?
Surtout par rapport au dynamisme des commerces du coup à Lambersart, qui, selon pas mal d'habitants, est impacté donc par les travaux rue Bécart, par les stationnements, par...
Moi, je suis heureux que les habitants s'inquiètent des commerces à Lambersart, et je leur dis rendez-vous dans les commerces de Lambersart. Les commerces, pour vivre, ils ont besoin de gens qui viennent chez eux. Les travaux, là, il y a des travaux actuellement avenue Bécart qui doivent être faits. Ce sont des travaux d'assainissement qui étaient prévus depuis longtemps par la MEL, sur lesquels, là, pour le coup, on n'est pas du tout responsable. Bon. Notre responsabilité, elle, est basée sur le fait que nous avons décidé, après expérimentation, de passer l'avenue Bécart à sens unique. Et donc, ça, je suis tout à fait prêt à l'assumer. Il fallait, sur cette avenue qui était extrêmement dangereuse à la fois pour les piétons et pour les cyclistes, trouver une solution. Aujourd'hui, ce sens unique permet d'avoir de vrais trottoirs, permet d'avoir des pistes, enfin des voies cyclables qui sont sécurisées, et ne diminue pas le nombre de stationnements. Alors, quand je dis ça, c'est pas tout à fait exact. On va perdre 10% du stationnement. Mais on va surtout gagner entre 80 et 90 arbres, parce que là, il n'y en a pas, avenue Bécart, et rue de l'Abbé Lemire. Donc, on va améliorer l'aspect et le vivre ensemble dans cette avenue. Nous pensons que le fait que cette avenue soit plus riante fera venir les gens, et que donc les commerçants y seront gagnants. Je sais bien que les commerçants ont très peur. On a proposé de les accompagner lors des phases d'expérimentation sur un plan financier. Ils ne nous ont pas sollicités. Donc, tant mieux pour eux. Je prends ici le pari qu'à moyen terme, les commerçants verront plus de gens arriver chez eux. Sur le plan du stationnement, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lambersart est une petite ville, c'est une ville qui est fortement urbanisée. Les modes de vie ont évolué et beaucoup de gens ont chacun leur voiture. Il y a de toute façon ni au Canon d'Or ni à Canteleu suffisamment de places de stationnement. Bon, néanmoins, je ne vois jamais personne circuler toute la nuit dans sa voiture sans trouver de place de stationnement. Donc c'est que quand même, il y a des solutions. On sait qu'en développant, alors que Lambersart est la première couronne de l'île, on sait qu'en développant tout ce qui est voie cyclable, eh bien, on change les modes de déplacement des personnes. Et il s'avère qu'un certain nombre de familles aujourd'hui n'ont plus qu'une seule voiture, parce que certains utilisent des vélos électriques, pour leur déplacement du quotidien. Nous n'empêchons pas les voitures de venir dans Lambersart, nous n'empêchons pas les voitures de stationner dans Lambersart, mais nous incitons les vélos et les piétons à utiliser la voirie lambersartoise et à s'y sentir en sécurité. J'espère que les commerçants en sortiront gagnants.
Et vous avez du coup évoqué la sécurité routière, je voulais aussi revenir sur ce point. Notamment par rapport à la vitesse à Lambersart, rue de Lille, on a eu beaucoup de retours comme quoi donc la vitesse était complètement très élevée sur cette rue-là et pas assez limitée. Est-ce que la mairie est en train de réagir?
Alors, la vitesse, c'est un sujet de préoccupation. D'abord parce que c'est dangereux, ensuite parce que ça pollue. Et donc, on s'est emparé du sujet. On a été une des premières villes à passer à 30 dans presque toute la ville, à faire des aménagements pour ça. On s'est rendu compte que le fait de passer à 30 diminuait la vitesse moyenne des voitures. C'est pas nous qui le disons, c'est la MEL qui fait des relevés et qui nous le dit. Donc on sait que le passage de 50 à 30 a permis de diminuer la vitesse moyenne des voitures de 5 km/h. pas se leurrer, hein, les gens ne roulent pas à 30, mais en tout cas, ils roulent en dessous de 50. Et la police municipale fait deux fois par semaine des contrôles de vitesse dans les rues Lambert-Sartoise. 99% des personnes roulent en dessous de 50 km/h. 1% roule au-dessus de 50 et donc ils sont sanctionnés. Rue de Lille, il y a des contrôles qui sont faits à la fois par la police municipale et par la police nationale. Et dans les faits, il y a assez peu d'excès. Quand il y a un excès, il est effectivement très important. Quelqu'un qui roule comme un chauffard, voilà, ce sont des chauffards. Et cela, que ce soit rue de Lille, avenue Bécart, avenue Sainte-Cécile ou boulevard de l'Alliance Nord-Ouest, il reste des chauffards. Et donc, je prends plaisir à apprendre qu'ils sont arrêtés et qu'on leur retire leur permis.
Merci beaucoup. Par rapport à donc, pas mal de sujets, vous évoquez à chaque fois donc, l'écologie comme une des priorités de votre mandat. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu un bilan des actions concrètes que vous avez faites à ce niveau-là dans la ville ?
Alors, on a... Je parlais tout à l'heure du maintien dans un quartier qui est extrêmement dense et minéral, du maintien du square de Buire-du-Buc et de son développement. On a développé tout ce qui est moyen de transport doux, hein, on essaye de favoriser les transports en commun, de favoriser le vélo et la marche. On a investi beaucoup dans l'isolation thermique des bâtiments municipaux, qui étaient de véritables passoires. Et là, on installe des panneaux photovoltaïques sur beaucoup de bâtiments municipaux. Dès notre élection, alors que c'était le couvre-feu lié au Covid, on a décidé l'extinction de l'éclairage public la nuit. C'était pas une décision économique, c'était pas pour gagner de l'argent, même si effectivement on en gagne. C'était une décision écologique pour favoriser la biodiversité. Ça s'est concrétisé, hein, puisque on a appris que, notamment sur tout le front du bois de la Citadelle et donc de la plaine du Colisée, il y avait eu une multiplication des espèces animales qui n'avaient jamais été vues à cet endroit-là. Et donc ça a porté du fruit. Et puis après, toutes nos politiques sont passées au crible de la transition écologique. Dans tout ce qu'on fait, dans les manifestations municipales, c'est l'eau du robinet que les gens boivent, hein, c'est pas des bouteilles en plastique, y a des tas de choses comme ça. On a développé les espaces sans tabac, que ce soit aux abords des écoles ou dans les parcs, et ça va continuer. Dès qu'on a la possibilité de mettre en place quelque chose qui a des vertus écologiques, on le fait.
Et dans notre émission, on avait déjà parlé notamment des îlots de fraîcheur, qui est un des éléments que vous souhaitiez développer. Est-ce que par rapport à cet élément-là, il y a eu donc des données suite à l'efficacité des îlots de fraîcheur? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a d'autres développements qui sont en cours?
Alors, j'ai pas de données. Non, j'ai pas de données. On a essayé en fait de repérer les îlots de fraîcheur naturels, c'est-à-dire les espaces dans lesquels il y a suffisamment d'arbres pour que les gens, en cas de canicule, puissent venir se réfugier là. Donc il y a six lieux qui ont été identifiés. Notamment en ce qui concerne les cours d'école qui sont toutes bitumées, va dès cette année implanter des arbres, des espaces verts pour les rafraîchir le plus possible. Mais j'ai pas de données quantitatives sur ces îlots de fraîcheur, non.
D'accord, mais du coup c'est quelque chose que vous allez continuer à développer dans des nouveaux lieux,
oui,
c'est du coup, notamment les écoles.
Mais c'est quelque chose qu'on va continuer à développer parce que de toute façon on n'a pas le choix. Là aujourd'hui on est le 22 février, je suis mu à vélo, il fait 13 degrés. Enfin. Tous les gens qui partent au sport d'hiver, là, ils pleurent parce qu'il n'y a pas de neige. c'est ça la réalité. Donc de fait, dire non, on s'en fiche et on va rien faire, c'est suicidaire. Donc, bien sûr qu'on agit. Après, on agit, tout à l'heure on en a parlé, avec des moyens financiers limités. Bien sûr que si on avait beaucoup plus d'argent, on pourrait passer la démultiplier. Là, on fait avec nos moyens financiers, avec notre ingéniosité, avec notre débrouillardise, et on fait ce qu'on peut. Voilà.
Et on voit d'ailleurs aussi à ce titre-là, dans ses ambitions, des jardins partagés se multiplier. Ça aussi, c'est une bonne action pour lutter contre les effets du changement climatique que vous voyez dans l'Ambersart. Je pensais au parc du Castel Saint-Gérard notamment, et même derrière nous, au niveau du studio de RPL.
Oui, alors là, ce sont des projets qui ont été initiés bien avant que nous ayons été élus. Donc, ce sont des projets qui...
Mais qui se perpétuent avec le temps.
Mais qui se perpétuent. En fait, pour qu'un projet se perpétue, il faut que les habitants l'adoptent et qui s'y investissent. Donc, il y a certains lieux où ça a été compliqué, d'autres qui fonctionnent bien, les habitants les font vivre. C'est ce que je vous disais il y a trois minutes. Dès qu'on a l'opportunité de développer, on développe. À Canteleu, il y avait un jardin partagé qui a été arrêté, puisque dessus, il y a un immeuble qui a été construit. Mais on redéveloppe juste à côté de cet immeuble un nouveau jardin partagé qui a une vertu écologique, mais qui a aussi une vertu de lien social.
Oui, il y a deux dimensions.
C'est aussi, et pour les jardins partagés, à mon avis, c'est plus le lien social, d'ailleurs, que la vertu écologique qui prime.
Et il y a un autre projet aussi, vous parliez de budget tout à l'heure, donc par rapport au budget participatif citoyen, il y a un projet très écologique qui a été voté, qui est du coup l'éclaircissement des toitures, projet du coup mené par Mathieu Richière. Est-ce que d'autres projets de ce style comptent être mis en place par la mairie et comment en fait la mairie va soutenir concrètement, à part via le budget, du coup, cette expérimentation ?
Cette expérimentation, elle rentre dans le cadre du budget participatif. Donc ça sera financé par la mairie, mis en œuvre par la mairie. Je ne sais plus quel est le coût, ça doit être 8 000 ou 8 500 euros et donc on va le faire. Les quatre projets qui ont été élus par les Lambert-Sartois au titre du budget participatif sont quatre projets écologiques. Il y a celui-là, mais il y en a un autre, c'est l'installation de systèmes de réparation pour les vélos. Il y en a un autre, c'est un poulailler opaco. Le quatrième m'échappe, mais... Si, c'est l'aménagement de la place de la République, du triangle de la place de la République en espace vert.
Triangle vert.
Voilà, et donc voilà, c'est quatre projets écologiques. C'est très bien que ça émane des habitants, que ça soit porté par des habitants et la mairie donc va les mettre en œuvre. Mais il y a plein d'autres projets portés par des habitants qui n'émargent pas au budget participatif et qu'on soutient. Il y a des associations qui lancent des choses. Il y a ici une association qui s'appelle Ça Urge et qui est très, très motrice dans à la fois le lien social et le développement écologique, on les soutient beaucoup. Il y a plein d'autres des associations qui lancent des projets.
Et quand on parle de soutien de la mairie, c'est un soutien qui est purement financier ou est-ce qu'il y a d'autres manières de soutenir de la part de la mairie ?
Bien, le soutien financier, il est limité, hélas. Et donc le soutien, il est logistique surtout aussi à travers l'investissement des agents et des élus pour débrouiller des nœuds qui semblent indébrouillables, pour donner un coup de pouce, pour apporter une intelligence, pour favoriser le dialogue. Voilà, et c'est aussi beaucoup de temps et d'énergie. C'est d'ailleurs essentiellement du temps et de l'énergie, puisque de l'argent, on n'en a pas. Donc c'est ça qu'on met en place.
Avec cet esprit de démocratie participative, en relisant tout à l'heure les articles à votre élection, c'était l'un de votre volonté numéro une de favoriser cette démocratie de...
Oui, alors on la favorise, en tout cas on la met en œuvre. L'année dernière, là, il y a un bilan qui a été fait. De mémoire, je crois qu'il y a eu 87 réunions de démocratie participative, ce qui fait une et demie par semaine. Et si on enlève les vacances, c'est plus de deux par semaine. Donc c'est quoi la démocratie participative ? C'est... permettre autour d'un projet, autour d'une idée, de rassembler ceux que ça intéresse. Donc, si on parle d'un projet immobilier, les riverains, les parties prenantes, hein, ceux qui se disent « tiens, je cherche aussi un logement, ça m'intéresserait qu'il y ait des logements qui soient développés à Lambersart », ce sont les écoles, enfin, c'est réunir tous ceux que ça intéresse pour ensemble réfléchir sur le projet. parce que je suis persuadé, nous sommes persuadés que réfléchir ensemble, ça fait évoluer favorablement un projet. Parce qu'il y a toujours beaucoup plus d'idées intelligentes dans 20 têtes que dans une seule. Et donc un projet qui serait élaboré dans mon bureau entre un architecte, un promoteur et le maire, bah oui, ce serait peut-être bien. Mais ce sera beaucoup moins bien qu'un projet auquel auront participé une vingtaine, une cinquantaine ou une centaine de personnes. La difficulté de la démocratie participative, c'est que les 100 personnes qui viennent sont convaincues toutes qu'elles ont l'idée géniale et qu'il faut que ça soit cette idée-là qui soit retenue. Et du coup, ça crée beaucoup de frustration parce que beaucoup se disent « Ah ben moi, j'avais une idée géniale, je l'ai exprimée, je l'ai dite et elle n'a pas été retenue, elle n'a pas été entendue. Donc de toute façon, tout ça, c'est de la foutaise. On fait des réunions, mais dans les faits, tout est déjà bouclé d'avance et on est juste là. » pour parader. À cela, je veux dire non. Je veux dire que toutes les idées sont entendues, toutes les idées sont étudiées, toutes les idées participent à l'évolution du projet. Et tous les projets, entre ce qu'ils étaient au départ et ce qu'ils sont à la fin, après ces réunions de démocratie participative, sont des projets qui ont considérablement évolué et, je le pense, de façon favorable. Donc, la démocratie participative, c'est obligé, c'est très difficile, parce que c'est parfois tendu, ça génère beaucoup de frustration, mais c'est indispensable si on veut des projets qui se concrétisent d'une bonne façon.
À présent, on va rester un peu dans le bien-être et dans le bien-vivre en ville, et c'est principalement parce que du coup, ça peut vraiment intéresser nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez faire un point poubelle, traitement des déchets, tri des déchets? Qu'est-ce qui, enfin, où en sont du coup les, où en est-on pardon du changement de couvercle, quand passent les poubelles, où ça, faire un petit point là-dessus.
Alors, les déchets, c'est un sujet complexe que moi-même j'ai bien du mal à comprendre. Donc, je vais essayer d'expliquer quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Le point numéro un, c'est le verre, les bouteilles, le verre. Aujourd'hui, la MEL est la dernière collectivité à mettre en place le tri du verre dans des bacs spécifiques, des bornes d'apport volontaire. Quand vous allez en vacances partout en France, vous devez amener votre verre dans un endroit dédié et pas le mettre dans votre poubelle. Ici, on pouvait le faire. C'est interdit par la loi et donc la MEL a installé des points d'apport volontaire. Donc le verre, il faut l'amener dans ces points d'apport volontaire. Vos poubelles, dorénavant, elles sont de deux ordres. Une poubelle tri, donc dans laquelle vous mettez tout ce qui est triable, c'est-à-dire les cartons, les emballages, le papier, enfin bon, voilà. Et ce qui n'est pas triable, vous le mettez dans votre poubelle déchets non triables. Ce qui est biodéchets, c'est-à-dire légumes et autres, il faudrait les amener dans des composteurs. Donc, soit vous avez votre composteur à vous, soit vous allez dans des composteurs collectifs. La MEL a pris beaucoup de retard dans l'installation des composteurs collectifs.
À Lambersart, il y en a... Enfin, où sont situés ceux qui sont à Lambersart, du coup?
Alors, il y en a quelques-uns dans les cimetières, puisque dans les cimetières, il y a beaucoup de fleurs. Et il y en a un dans le parc de la mairie et quelques autres que vous trouverez sur le site de la mairie. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 7 pour tout Lambersart. Donc, les gens qui ont un jardin ou un espace peuvent installer leur propre composteur. Bon, aujourd'hui, ça manque. Mais sur le reste, les bornes d'apport volontaire de verre et le ramassage des poubelles, donc soit de tri, soit poubelle non tri, ça se fait assez bien. Que les gens ne s'inquiètent pas par rapport au couvercle de leur poubelle, même si le couvercle mauve demeure, elle sera quand même ramassée. Il n'y a pas besoin absolument que le couvercle devienne jaune pour que leur poubelle soit ramassée. Mais un jour, le couvercle deviendra jaune par magie.
Merci pour le petit récapitulatif. Je voulais juste revenir rapidement du coup sur les lumières que vous aviez évoquées plus tôt dans cette discussion pour des raisons du coup qui ont été éteintes pour des raisons écologiques. On a eu pas mal de retours par rapport à ça et on a vu du coup que ça suscitait notamment des inquiétudes parmi les résidents en termes de sécurité. Est-ce que vous pourriez un peu répondre sur ces questions-là, donc, de peur par rapport à la sécurité publique?
Alors, il y a deux choses. Il y a la peur et la réalité. Donc, avoir peur du noir, bah oui, c'est normal, c'est humain. L'être humain, il a jamais aimé le noir. C'est pas un animal qui vit la nuit. Donc personne n'aime circuler dans le noir. Donc, cette peur-là, je n'ai pas de moyen de l'éviter. Après, la réalité, qui serait qu'on est plus agressé dans le noir ou il y a plus de vols dans le noir, cette réalité, on peut l'objectiver avec les chiffres de la police. Alors, avant même que nous éteignions, il y a plein de villes en France qui ont éteint leur lumière la nuit, et des grosses villes qui l'avaient fait. En fait, il s'avère qu'il n'y avait pas eu d'augmentation de l'insécurité, de la délinquance ou des agressions. Nous, à Lambersart, donc on a éteint en octobre ou novembre 2020. Pendant un an, j'ai sollicité auprès de la police nationale les statistiques de vol et d'agression avec les horaires de ces vols et de ces agressions. Et il s'avère qu'au bout d'un an, il n'y avait pas eu de changement dans les chiffres de l'insécurité. Depuis, donc, j'arrête d'embêter la police avec ça parce que c'est très compliqué pour eux de donner ces chiffres-là. Globalement, voilà, il n'y a pas d'aggravation des choses. Il faut savoir que sur 8 cambriolages, 7 se déroulent en journée, en fait. Quand les gens ne sont pas chez eux. Donc la réalité, c'est celle-là. Mais je comprends qu'on ait peur et je ne peux pas, même en sortant des chiffres, rassurer les gens. Quelqu'un qui a peur d'une souris, vous aurez beau lui expliquer que la souris, elle est toute petite et qu'elle ne va pas nous manger, personne ne va continuer à avoir peur, ce qui est normal.
Écoutez, on a traité un peu les quatre volets. Avant de passer à la boîte à questions, on vous pose une question... À mi-mandat, vous avez dit 3 ans et demi, les élections arrivent en 2026. Est-ce que ça vous trotte dans votre tête? Vous avez commencé à y réfléchir parce que vous dites que forcément les mesures mettent du temps à arriver, à se concrétiser. Donc est-ce qu'on pense aussi à refaire un nouveau mandat pour continuer votre action?
Alors là, on est au-delà du mi-mandat, puisque ouais, les élections, là, c'est dans 2 ans, donc, c'est vite. Non, ça ne trotte pas dans la tête. Alors ça commence à. Parler en ville. Vous savez, notre équipe est une équipe d'élus qui n'ont jamais fait de politique, qui sont adhérents à aucun parti. Ce sont des gens qui se sont réunis pour porter un projet et qui ont une vie à côté. Moi-même, je travaille, je continue à travailler, je suis médecin, je continue à travailler, et tous les élus ont une vie à côté. Donc, notre vie ne tourne pas autour de pourvu que je sois élu, pourvu que je sois réélu.
Ouais, c'est pas la mairie de Paris, comme on entend dans les médias.
C'est, même si Lambersart est une grosse ville, en tout cas les élus qui aujourd'hui la gèrent ne sont pas des hommes et des femmes politiques. Dont la politique en tout cas est un métier, pour lesquels la politique est un métier. Donc la question se posera. Aujourd'hui il est trop tôt pour se la poser. On a des projets, enfin ils se concrétisent, on est content de ça, et puis on a encore plein de projets et on espère qu'ils se concrétiseront dans les années qui viennent.
Donc chaque chose en son temps, pour conclure.
Oui, chaque chose en son temps. Et oui, la question, là, elle est prématurée. En ce qui nous concerne, je comprends qu'elle ne soit pas prématurée pour d'autres qui ont des ambitions. Je comprends qu'ils se positionnent d'ores et déjà sur les lignes de départ. Mais nous, on est dans la course, donc on ne va pas se positionner sur les lignes de départ.
Et vous prenez du plaisir, du coup, dans cette activité de maire depuis 3 ans et demi
Ouais.
Avec votre activité de côté, vous êtes psychiatre.
Oui.
On a oublié de le préciser en introduction, mais voilà, vous prenez du plaisir chaque jour.
Ce qui est plaisant dans ce métier-là, même s'il y a beaucoup de contraintes, je l'ai dit, de la part de l'État, on peut changer la vie des gens. La première décision que j'ai prise quand j'ai été élu, le 3 juillet 2020. Je suis venu me balader dans le parc Jean-Louis Borloo au Paco Vendrac à Lambersart. J'ai rencontré des habitants qui vivent dans des immeubles collectifs. À cette période-là, il faisait très chaud. Et les habitants m'ont dit, monsieur le maire, comment se fait-il? On est au mois de juillet, le soleil se couche à 22h30. que le parc Jean-Louis Borloo soit fermé à 20h. À 20h, on est obligé de retourner dans nos logements, on n'a pas d'espace extérieur. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'y rester ? J'ai réfléchi, je ne sais pas pourquoi il fallait fermer le parc à 20h. Donc on a décidé de le fermer à 22h. Et en prenant cette décision-là, eh bien, on a rendu service à 1500 personnes qui, du coup, c'était un été au cours duquel il faisait beau, eh bien, ils ont pu profiter des extérieurs jusqu'à 22h. Voilà, c'est ça le pouvoir du maire. C'est
ça que vous aimez bien aussi.
C'est de pouvoir changer la vie des gens en prenant des décisions comme celle-là. Oui.
D'accord.
Merci beaucoup du coup pour toutes vos réponses. On voulait continuer cette interview avec, comme je le disais en introduction, un petit jeu un peu plus léger. Mmh. C'est des questions auxquelles vous devez répondre le plus rapidement possible si ça vous convient. Quelle est, donc première question, quel est le monument ou l'endroit secret de la ville que vous adorez mais que peu de gens connaissent ?
Wow, c'est dur, là, plus rapidement possible. Un endroit secret, pas connu sur Lambersart, qui fait 6 km² et où il n'y a vraiment pas de,
votre endroit préféré.
De secret. Mon endroit préféré, le kiosque du parc des Charmettes.
Ensuite, on avait une autre question. Là encore, ça va peut-être être, on va peut-être vous prendre de court. Quelle est la demande la plus insolite que vous ayez jamais reçue d'un citoyen lambersartois ?
La plus insolite ?
La plus surprenante C'est pas simple, hein, quand même.
La plus insolite. Ma réponse va pas vous plaire. Ma réponse va pas vous plaire. Parce que, en fait, il n'y a pas de demande insolite. Quand les gens sollicitent le maire, c'est toujours parce qu'ils sont confrontés à un problème. Alors, effectivement, ce problème, peut-être que moi, il peut m'apparaître comme secondaire. Mais pour eux, c'est tellement important qu'il faut solliciter le maire. Donc je ne peux pas dire, oh là là là, c'est n'importe quoi. Donc, ma réponse ne va pas vous plaire, parce qu'elle n'est pas rigolote. Mais quand les gens écrivent au maire, c'est qu'ils n'ont pas eu de réponse par les autres élus ou par les services. Donc c'est jamais anodin et c'est jamais sans enjeu pour eux, en tout cas.
Est-ce que vous passez du temps à parcourir les archives de la ville ?
Non.
Est-ce que vous pouvez décrire Lambersart en trois mots ?
La plus belle... Alors, en trois expressions.
La plus belle ville de la métropole, non, ça marche pas. Ça.
Vas-y, en trois expressions, vous m'autorisez.
Allez, ouais.
Non, la plus belle ville de la métropole, une ville avec beaucoup d'associations et donc de gens engagés, et une ville bien née, c'est-à-dire vraiment la première couronne de l'île, et donc du coup avec cette chance de pouvoir se rendre dans la ville principale facilement. Ça fait beaucoup de mots, mais...
On a compris l'idée.
Y a-t-il une tradition, une habitude qui vous plaît à Lambersart ? Une coutume ?
Une coutume à Lambersart ?
Ou dans le Nord ?
Non, c'est pas une coutume spécifique à Lambersart. Moi, j'apprécie beaucoup les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. Donc des cérémonies d'armistice. Parce que on a la chance on a la chance de vivre dans un pays en paix c'est important de le rappeler chaque année.
Si vous pouviez changer un élément de la ville du jour au lendemain, bon, avec ce que vous nous avez dit comme quoi c'était compliqué, à chaque fois ça prenait des années, mais quand même sans aucune contrainte budgétaire, quel serait-il et pourquoi ?
Si j'étais magicien et que je pouvais faire ce que
c'est
je veux, j'élargirais les rues pour que chacun puisse s'y sentir à l'aise. Le baron Haussmann à Paris, qui a pu démolir tous les quartiers et faire des boulevards qui permettent que piétons, vélos, transports en commun, voitures circulent facilement. Ça, c'est impossible.
Ça marche.
Merci beaucoup du coup pour ces réponses. On va clôturer cette interview avec donc un élément phare de notre émission, comme je vous l'avais dit, ça s'appelle la parole lambersartois. Et du coup, on a été dans la rue pour poser des questions aux lambersartois. On leur a dit, de façon très honnête, on va interviewer le maire. Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire ? On a trois questions assez rapides. Donc, je vous passe donc la première.
Pourquoi, dans un exercice de démocratie participative, Des réunions ont lieu avec le comité de suivi sur l'aménagement de l'avenue Bécart et que la proposition qui a été faite qui permettait d'aménager à la fois une double circulation pour préserver le commerce local et réduire les flux et qui tenait compte aussi de la faillibilité de la résistance de la rue de Lille hein, qui connaît des problèmes de structure hein, puisqu'il y a eu deux trous qui sont apparus là actuellement c'est en train de se produire sur d'autres endroits. Pourquoi donc la troisième proposition n'a absolument pas été évoquée et pourquoi vous êtes confiné dans un biais de confirmation systématique lorsque vous faites appel à la démocratie participative?
Ben, la réponse elle est assez évidente, c'est que contrairement à ce que pense ce monsieur, c'est pas le maire qui décide, c'est justement la démocratie participative. Donc il y a des gens qui ont exprimé des idées, elles ont été entendues. Ces idées, parfois, elles ne sont pas possibles techniquement. Dans le cas de l'avenue Bécart, de la rue de Lille, il n'est pas possible de faire circuler les bus en cercle comme, de ce que je comprends, ce monsieur l'imagine, parce que les arrêts de bus seraient trop éloignés les uns des autres, par exemple. Les problèmes de structure rue de Lille étaient inconnus, bien sûr, sinon on n'y aurait pas lié il y a bien longtemps. Voilà, enfin, il n'y a pas de... C'est le principe de la démocratie participative. C'est pas le maire qui décide, c'est pas une personne qui décide. C'est un ensemble de citoyens qui réfléchissent ensemble. Et il y a, hélas, des solutions qui peuvent paraître bonnes, mais qui sont écartées parce qu'elles ne sont pas réalisables.
Deuxième question.
Bon, je sais que il peut pas s'occuper de tout, mais qu'il regarde un peu la propreté de sa ville, qu'elle soit un petit peu plus fleurie aussi.
Alors sur la propreté, je suis d'accord avec cette dame. J'aimerais que ça soit amélioré. En fait, il y a une problématique, c'est que il fut un temps où l'État finançait ce qu'on appelait des contrats aidés, et donc 80% du salaire était pris en charge par l'État pour des personnes qui étaient loin du champ du travail, et donc la mairie a pu recruter des personnes qui participer à l'entretien de la voirie, à l'entretien des rues. Après le Covid, l'État a cessé ses contrats aidés et donc nous n'avions plus les moyens de salarier autant de personnes pour nettoyer les rues. Hélas, nous n'avons pas pu les garder. Je redis vraiment hélas. En revanche, ce que nous avons décidé, c'est d'acquérir des balayeuses qui permettent de pallier un peu cette disparition des personnes qui nettoient les rues. Mais je suis d'accord avec cette dame, j'aimerais que nos rues soient plus propres. Après, je tiens quand même à préciser que si nos rues sont sales, c'est parce qu'il y a des gens qui jettent des choses dans les rues. Et que ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous vivons dans une ville, nous vivons ensemble, et on ne peut pas demander à la ville de toujours tout faire, et soi-même de ne rien faire.
D'accord. Bon, du coup, la troisième question est un peu dans le même domaine, je la passe quand même.
Bon, évidemment, ils ont mis des sachets, ça je suis content, parce qu'ils ont mis des sacs pour les crottes de chiens. Ça, c'est ce que je souhaitais depuis longtemps. Monsieur Debresse, il l'avait fait, il l'avait enlevé, parce que ça coûtait cher. Lui, il les a remis. Et c'est pas pour autant que les gens sont plus propres que parce qu'il y a des sacs. Hein. Donc ça, c'est ce que je reproche à M. Bush, c'est de pas trop intervenir. Ils ont mis des panneaux que les gens allaient avoir une amende s'ils ne ramassaient pas. Mais je vois que les gens, ils continuent à faire les joints sur les trottoirs. On marche dedans, il y en a partout. Donc ça, je trouve que c'est pas très, très propre pour la ville. Hein.
Alors oui, on a installé des dévidoirs de sacs qui sont toujours pourvus. Il n'y a jamais de dévidoir dans lequel il n'y a pas de sac. Donc les possesseurs de chiens ne peuvent pas nous dire « Ah là là, je n'ai pas de sac à disposition, ça n'est pas vrai, il y a toujours des sacs ». L'incivisme des gens, et là en l'occurrence on parle souvent de l'incivisme des jeunes, mais... il n'y a pas que des jeunes qui se baladent avec leurs chiens. L'incivisme des gens... c'est un vrai souci. Sur les amendes, il faut savoir que les effectifs de la police municipale sont passés de 9 à 14, donc une augmentation de 50%, et ils circulent de plus en plus à pied ou à vélo dans les rues de Lambersart. Néanmoins, pour pouvoir punir les maîtres qui ne ramassent pas les crottes de leurs chiens, il faut les prendre sur le fait. Et bien souvent, quand les policiers sont dans le coin, eh bien les gens ramassent les crottes de leurs chiens. Donc du coup, nos policiers prennent assez peu sur le fait des personnes qui ne les ramasseraient pas. Je ne sais pas si ces personnes, une fois que les policiers ont tourné le coin de la rue, continuent à ramasser les crottes, mais sans doute que non, puisque je suis d'accord avec elles, il y a trop de crottes de chiens sur nos trottoirs.
Bon, eh bien, monsieur le maire, pour clôturer notre interview, est-ce que vous avez des vœux pour 2024, un message à faire passer aux Lambersartois qui nous écoutent, aux auditeurs d'RPL plus largement?
Oui, moi, le vœu que je formule, c'est que chacun d'entre nous s'engage. Pour être heureux, il faut s'engager, il faut agir. Si on ne fait que subir les choses, si on espère que les autres vont agir pour que ça change, eh bien, on est toujours déçu. Donc, engagez-vous, que ce soit dans les associations, que ce soit vis-à-vis de vos voisins, ou que ce soit en politique, mais engagez-vous, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est comme ça qu'on change le monde, et c'est comme ça qu'on est heureux.
Merci beaucoup d'être venu du coup dans nos studios à RPL Radio pour participer à cette édition donc de Lambersart en ondes.
Merci pour l'invitation.
C'était super agréable de pouvoir nous poser nos questions. On a essayé de préparer au mieux l'entretien avec ce qu'on avait niveau connaissance de la ville.
Vous l'avez bien préparé.
Merci beaucoup.
Vous l'avez bien préparé. Il y avait des questions complexes. Donc bravo à vous d'avoir suivi le conseil municipal et de vous être renseigné sur ce qui fait toute la joie et les difficultés de la gestion d'une ville.
Merci beaucoup.
Oui, on espère du coup que cette interview aura intéressé nos auditeurs. On vous dit donc pour le mois prochain pour une nouvelle édition de Lambersart en ondes. Merci beaucoup.
Merci.
Encore d'être venu.
Au revoir.
Au revoir.